Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. Et je demande au Seigneur de m'aider pour apporter ce message. Nous passons pour l'instant par ce qu'on pourra appeler une période de turbulence. Nous avons pas mal de problèmes. Et le dernier en date, c'est celui de Walter Gonzalez, qui a eu un terrible accident et qui est bien sûr à l'hôpital pour, je crois, un bon moment. Et nous ne savons pas comment ça va se passer, mais par un miracle, il risque même de perdre l'usage de ses jambes. Il repartait après un long voyage qu'il avait fait en passant entre autres par chez nous, où il avait fait tout un périple avec deux couples brésiliens qui venaient en voyage de noces. Et il a voyagé un peu partout. En définitive, il les a reconduits en Italie, où là, des chrétiens allaient les mettre sur l'avion. Et il avait une rencontre en Bosnie avec les autorités de la ville, quelque chose d'officiel. Et le dimanche, il devait être à l'église aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, le jeune Amir qui était avec lui s'est endormi au volant. Et c'est lui qui a encaissé tout. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est en tout cas ce qui est arrivé. Alors, on vous donnera peut-être des nouvelles récentes à la fin de ma prédication, afin que vous puissiez prier pour lui. En tout cas, quand moi j'ai eu mon accident, il y a 3-4 ans, parce que le temps passe tellement vite, que je suis donc tombé du moulin lors d'une visite d'école, il est venu de Bosnie pour aider Dorca, etc. Et il a dit: ça va aller, parce que le Seigneur a encore besoin de toi. Et je pense que c'est la même chose pour lui. Quoi qu'il arrive, je pense que le Seigneur a besoin de lui. Et c'était une situation vraiment très pénible, parce que, vous savez, ces pays là-bas, ce n'est pas la Belgique, hein. C'est une toute autre mentalité. Et on nous a téléphoné, puisque nous sommes, comme il dit, ses parents spirituels en Belgique. Et on a demandé s'il avait une couverture sociale. Alors on ne savait pas du tout ce qu'il en était. Et si on ne savait pas s'il avait une couverture sociale, il n'était pas question d'opérer ni de faire quoi que ce soit. Et là-dessus, Dorca, parce qu'on a un ordinateur où il est marqué Paul-Antoine, mais c'est Dorca qui le gère, et elle a eu contact avec un frère américain que Walter connaît bien et qui connaît bien Walter, et lui a pris contact avec l'hôpital là-bas, et elle a dit: opéré, je paye tout. C'est un chrétien très, très, très riche et qui a déjà beaucoup aidé Walter. Alors, priez pour lui, mais priez aussi pour le garçon qui conduisait. Je dirais presque que c'est un bon à rien, ce gars. Parce que s'il l'avait pris avec lui, c'était parce que c'était vraiment un gars à problème. Et il avait dit à Dorca et à nous, à moi, je prends le problème avec moi pour que là-bas, à ces réservoirs, il soit tranquille. Alors, maintenant, ce gaillard, il s'en veut à mort hein, de ce qui s'est passé. Alors, il faut aussi prier pour lui. Peut-être que cette épreuve lui fait comprendre quelque chose par rapport à Dieu. Voilà. Alors, je voudrais vous parler de l'hospitalité. Je l'ai déjà fait ici, mais je voudrais en parler d'une autre manière. Ce mot signifie en grec aimer l'étranger. Aimer l'étranger, mon ami. Avec tout ce qu'on entend dans notre pays et dans l'Europe et un peu partout, aimer l'étranger. C'est tout un programme. Hein. Mais on voit dans 1 Timothée 3:2, que c'est ce que l'ancien doit être. Il faut donc que l'évêque, le responsable, si vous voulez, de l'Église, de l'Assemblée, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé, dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Être hospitalier, ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire avoir un contact humain avec les gens. Avoir un contact humain. Et c'est pour ça que moi, je prône beaucoup les agapes. Parce que lors des agapes, on se comprend, on peut se parler, on peut connaître l'autre. Et je veux vous citer un texte pour dire que l'Assemblée, c'est bien, c'est important, mais il y a plus que ça, il y a plus que ça. Et on m'a raconté l'histoire d'une vieille sœur, et cette vieille sœur, elle avait un tout petit appartement. Et elle voulait faire de l'hospitalité, mais elle ne pouvait pas. Et puis, une femme toute seule, recevoir des gens, c'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé un couple qui avait une grande maison. Elle a dit à ce couple, écoutez, invitez telle et telle personne. Et moi, je vais tout payer. Je vais tout payer les frais. Et comme ça, elle pouvait, elle, créer de l'hospitalité. Alors, Jésus n'appelle pas tout le monde à partir comme missionnaire aux confins du monde. Mais si vous avez une table et des chaises et quelques victuailles dans votre frigo, vous pouvez pratiquer le plus ancien des ministères de l'Église, l'hospitalité. Chaque fois que vous invitez un étranger à votre table, et exprimer l'amour de Dieu à son égard, c'est Jésus que vous accueillez chez vous. Car toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Et j'ai retrouvé un vieux livret qui s'appelle le Père Martin. Peut-être pour les plus vieux d'entre nous, vous avez connu ça. Mais j'ai demandé à Ross, il paraît qu'il y a de longues années, à Noël, on a fait cette pièce. Alors, je ne vais pas vous donner des ordres au moniteur de l'école du dimanche, mais c'est tellement une belle histoire, vraiment prenant, que ça vaudrait peut-être la peine de la recommencer. C'est l'histoire d'un cordonnier qui a prié pour avoir le Christ dans sa boutique de cordonnerie le soir de Noël. Et tout le monde est passé, et le Christ n'est jamais venu. Mais à la fin, comme je l'ai dit, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Car en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, vous les avez faites à moi-même. Alors, voilà l'histoire du Père Martin. Et en tant qu'individu, en tant que chrétien, nous pouvons faire beaucoup de choses. Alors, une citation de Max Lucado, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. « Dans une église, vous ne voyez que l'arrière de la tête des gens assis devant vous. À table, vous voyez le visage de ceux que vous avez invités. Dans une église, une seule personne parle, le prédicateur. Autour de votre table, chacun peut s'exprimer. Dans une église, le temps du service est limité. » Il ne faut pas que le prédicateur soit trop long. Hein. Autour de votre table, vous avez beaucoup plus de temps pour discuter et apporter votre témoignage. Hospitalité et hôpital viennent de la même racine latine. Les deux expriment l'idée de guérison. En invitant des étrangers chez vous, vous leur dites que Dieu s'intéresse à eux et qu'il souhaite les guérir une fois pour toutes. Allez dans la ville et trouvez quelqu'un à qui vous pouvez dire « C'est chez moi que tu dois venir manger ce soir. » Alors les disciples d'Emmaüs n'auraient jamais reconnu Jésus s'ils n'avaient pas invité à partager un repas avec eux. Luc 24, 29. Qui sait, quelle personne invitée à votre table n'a pas été envoyée par votre Seigneur lui-même sur nos chemins comme celui qui mène à Emmaüs marche aujourd'hui des étrangers qui ont besoin de rencontrer Jésus. Alors, il est dit aussi que on risque d'avoir, d'inviter, d'héberger des anges sans le savoir. Eh bien, nous, on a hébergé un ange sans le savoir. Et cet ange, il s'appelle Walter. Parce que il y a 17 ans, je crois, qu'il est venu en Belgique. Combien ? 37 ans. 27 ans. J'ai oublié mon appareil, excusez-moi. 27 ans. Et quand il est venu, ben, il a appris qu'on avait besoin d'aide. Et quand il est arrivé chez nous, la première chose qu'on lui a demandé de faire, c'est de coller des étiquettes sur des boîtes en carton « sont pour maigrir et contre la constipation ». Ça, c'est le premier boulot qu'on lui a demandé de faire. Mais après, chers amis, on était vraiment découragé à un certain moment. On ne se voyait plus avancer dans notre travail. Et lui est arrivé et il a dit, allez, hop, il faut vous réveiller, hein, ça ne va pas comme ça. Hein. Et il nous a remis les pieds à l'étrier. Et c'est comme ça qu'on a pu continuer notre travail. Alors, vous savez, il arrive d'avoir parfois des mauvaises expériences. Nous avons logé chez nous quelqu'un qui, à la fin, on a dû lui demander de partir. Une chrétienne, mais on la connaissait soi-disant, mais elle nous accaparait tout le temps. On sortait de chez nous, « Ah, Paul, est-ce que tu veux faire ceci, est-ce que tu... » Mais un peu ça va, mais il arrive au bout d'un temps où ça va plus. Ça ne va plus, parce qu'on risque d'attraper une dépression nerveuse. Si chaque fois que tu sors de chez toi, look, il y a cette bonne femme qui est là et qui exige quelque chose. Ça, c'est une expérience négative. Mais à part ça, il y a des années, il y avait la convention à la rue du Moniteur à Bruxelles. Hein. Et là, il y avait Charles Guillot, qui était là comme prédicateur, et Charles Rodin comme chanteur. Et puis, j'ai dit à Dorca, mais tu sais, on avait connu Charles Guillot parce qu'il nous avait invités pour aller à Orange, en France, hein, à Orange, pour moi jouer du saxophone pendant les soirées d'évangélisation. C'était tout ce que j'avais à faire, jouer du saxophone pour accompagner les chants. Donc, on le connaissait bien. C'était au début de notre mariage. Alors, je dis à Dorca, ben, on va les inviter pour souper. Mon ami, quelle catastrophe dans sa tête! Elle dit, mais écoute, Charles Guillot et Charles Rodin, ce sont des grands! Je dis, non, écoute, non, ça ne va pas. Chez mes parents, j'ai toujours voulu inviter quelqu'un. Et chaque fois, c'était niette. Alors, maintenant qu'on est mariés, ça ne va pas recommencer ce cirque-là, hein? Alors, hein, bon. Alors, à la fin, comme Paul-Antoine est parfois un peu persévérant, insistant, tout ce que vous voulez, elle a quand même bien voulu qu'elle vienne souper. Et des années après, lorsque je rencontrais à Paris, lors des réunions d'information et d'action, Charles Guillot, il me disait, « Oh, je me souviens encore des tomates farcies que Dorca a faites. C'est les meilleures que j'ai eu mangées. Les meilleures que j'ai eu mangées. » Voilà donc, il faut apprendre à se connaître, chers frères et sœurs. Et je terminerai par une histoire vraie, Non pas que ce que j'ai raconté jusqu'à présent n'est pas vrai, mais il y avait deux familles en 40 qui ont voulu évacuer. Et ces deux familles sont arrivées à Boulogne, et Boulogne brûlait, était en feu. Les derniers bateaux pour aller vers l'Angleterre, parce que c'était le but, les derniers bateaux pour aller vers l'Angleterre étaient partis. Plus moyen d'aller vers l'Angleterre. Donc à ce moment-là, ils se sont repliés sur la France. Et là, ils sont arrivés dans un petit village, et là, des gens, un couple de fermiers catholiques, convaincus, les a hébergés. Et là, une des deux femmes qui était là attendait famille. Et la fermière de dire, écoute, à son mari, on ne va pas laisser cette femme dormir dans la grange, hein. On va la mettre dans notre maison. Bon. Alors, le moment où cette femme devait accoucher est arrivé, et le mari de la femme, il a cherché après un médecin. Mais pendant la guerre, on ne pouvait pas sortir de la maison comme on voulait, hein, que ce soit en Belgique ou en France. Hein. Alors, on a cherché partout, pas moyen de trouver de médecin. Alors, c'est la boulangère qui est venue et qui a coupé le cordon ombilical. Et c'est comme ça que, eh bien, Dorca est née, puisque c'était la famille de mes beaux-parents qui ont été évacués là-bas. Avec qui? Avec les Bains. Monsieur, Madame Bain, la grand-mère et tous les frères. Alors, c'était un peu épique, hein, parce que la grand-mère, elle ne parlait pas un mot de français. Pas un mot. Et puis les hommes, des Écossais, ils étaient obligés, écoutez bien, ça vaut la peine, hein, ils étaient obligés de creuser des trous pour les pistes de V1 qui partaient sur l'Angleterre, sur Londres. Donc vous vous rendez compte, eux creusaient des trous pour tuer leurs compatriotes. Voilà. Mais ce qu'il y a de beau là-dedans, hein, c'est que cette famille, elle a hébergé les deux familles. Et avant de mourir, le père, qui s'appelait Numa, a dit à ses enfants, il faut toujours rester en contact avec les Belges. Toujours rester en contact avec les Belges. Et c'est comme ça qu'encore, il y a quelques temps, on a reçu une des filles, qui a maintenant 80 ans, hein, et qui est venue nous aider pendant les camps à faire la cuisine, puisqu'elle avait une auberge en France. Hein, et c'est comme ça qu'elle nous a aidés encore beaucoup de fois, et qu'on reste en contact avec eux. Voilà. Alors c'est ça, l'hospitalité. L'hospitalité, ce n'est pas un donné pour un rendu, hein, ce n'est pas ça. Hein. Parce que moi, j'ai connu des gens qui disent « on va inviter celui-là, il habite dans le midi de la France, comme ça, hein, on pourra aller là-bas à l'œil ». Ça, ce n'est pas de l'hospitalité, hein. C'est de la spéculation. Et la spéculation, ce n'est pas dans la Bible. Ça va? Je n'ai pas trouvé ça dans la concordance. Voilà. Alors, que le Seigneur nous apprenne à être hospitalier. Ce n'est pas toujours évident, ça ne rapporte pas toujours grand-chose, mais c'est un ordre du Seigneur d'être hospitalier. Je répète, aimer l'étranger, c'est ça l'hospitalité. Voilà. Alors, que le Seigneur nous aide à comprendre. Maintenant, tu veux dire que la dernière nouvelle? c'est pas son don le plus marquant de parler. Elle est hospitalière, mais elle n'est pas très causante. Alors, écoutez, je vais essayer de vous raconter ça. Je vais près d'elle. Elle va me souffler à l'oreille ce que je dois vous dire. Donc c'est les nouvelles qu'on a eues ce matin, hein, c'est ça, hein. Il est conscient.
Il n'est pas allé en coma. Il a été opéré 3 ou 4 fois d'une
une tumeur cérébrale.
Alors ici, pour nettoyer les poumons, ils ont ouvert aussi.
Parce qu'il avait beaucoup de côtes cassées.
Aussi, oui, du sang.
Et du sang en plein les poumons. les yeux au foie.
Ça, ils ont repéré aussi. Alors, il est sous respirateur. Et demain, normalement, il sera opéré du dos s'il est passé. Il est bien conscient.
Oui, il est bien conscient.
Il a écrit. Ils l'ont fait écrire pour voir si sa tête réagissait bien. Et alors, ils ont mais parlé comme il est sous respirateur. Normal, il ne sait pas parler.
Voilà, alors, prier pour lui. Le frère américain, là, met dans sa lettre qu'il ne faut pas envoyer de sous pour l'instant, mais que peut-être dans les jours qui viennent, il faudra payer.
Je m'étais souvenu que Walter avait cet ami là-bas et qu'il allait en octobre, il passe, en septembre il vient chez nous et en octobre il allait là-bas chaque année. C'est vraiment des chrétiens engagés, des gens qui sont dans les affaires et qui aiment beaucoup Walter et qui vont en Bosnie souvent. Et je me suis dit, je ne sais pas, c'est le Seigneur qui m'a dirigé sûrement, je me suis dit, je vais le contacter, puisqu'ils ne veulent pas opérer, on n'a aucun papier, on n'a rien qui prouve qu'il a une couverture sociale, qu'il est repris par une mission. On sait qu'il est repris par une mission anglaise, mais on ne connaît même pas le nom. Et alors, je lui ai envoyé un mail, il m'a répondu, et il a demandé des explications et j'ai dit qu'on ne voulait pas opérer tant qu'il n'y avait pas de couverture sociale. Alors il a dit, je prends tout ça en main, je m'occupe. Et alors après, il nous a donné des nouvelles disant qu'il avait contacté les médecins là-bas, qu'il avait expliqué le cas, que c'était un missionnaire à l'œuvre et qu'il avait sûrement une couverture sociale, mais qu'on n'avait pas ses papiers et que lui s'engageait à payer tout. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à opérer, donc ce qu'il fallait opérer. Mais autrement, ils ne voulaient pas. Donc, ils seraient...
Et ce frère a demandé à Walter, il y a un moment, on ne sait pas combien de temps, pour accompagner sa femme et sa fille en Australie, parce qu'elle voulait aller en Australie, mais il ne voulait pas, lui, qu'elles aillent toutes seules. Alors il a payé tous les frais pour que Walter puisse accompagner sa femme et sa fille en Australie. C'est un gars qui... D'ailleurs, je crois que, si je me fais erreur, mais je crois que c'est certainement une affaire, il a une carte American Express. Et quand il a besoin d'argent, s'il n'en sort pas, il peut tirer de l'argent avec cette carte. Donc c'est un chrétien vraiment engagé, hein, et qui aime le Seigneur. Hein. Voilà un peu les dernières nouvelles.
Est-ce qu'il s'appelle Greg Blackmore?
Oui, c'est ça.
Parce qu'il vient de faire paraître sur Facebook les dernières nouvelles, le résultat médical du médecin.
Toute la liste, là.
Oui, traduit, mais qui dit quand même que... Il doit être opéré d'une fracture parce qu'il pense que la malignière est touchée et qu'il se cancre. Donc ça, ça vient de paraître même traduit, parce que j'ai trouvé la traduction. Ça dit qu'il est handicapé, donc je suppose que la fracture vertébrale a affecté sa malignière. Et ça, c'est le médecin qui a opéré Walter qui le
dit.
Alors moi, ce que j'ai proposé, c'est, si on voit que ça ne va pas, c'est comme je l'ai fait pour Jonathan McCrosty. Jonathan McCrosty a eu le même truc. Hein. Donc il était dans sa voiture, le gaillard qui conduisait s'est endormi, et il a eu le coup du lapin. Donc il était en Espagne, avec une équipe d'OM, et à ce moment-là, j'ai appris ça, et le grand directeur d'opération mobilisation, Georges Verwer, m'a téléphoné et il était question qu'on le mette soit en Suisse, soit en Belgique. Or, c'est à Bruxelles, au CTR, que c'est le meilleur hôpital, en tout cas en Europe, pour ce genre d'accident. Donc, on verra avec le temps, mais autrement, je suis prêt à faire venir Walter au CTR à Bruxelles. CTR, c'est l'hôpital Brückmann, pour ceux qui connaissent. C'est un département dans l'hôpital Brückmann. Voilà, mais il faut attendre maintenant les jours. Hein. On va voir comment ça va tourner. Hein. Ça va ? Merci.